la libre antenne d'Europe 1. Yann Moix accompagne vos nuits.
Qu'il est trop tard, qu'est-ce que tu crois? Il est toujours trop tard. Nous ne faisons pas le poids face au temps qui nous écrase. L'haleine du monde n'est pas fraîche. Nous naissons désespérés, nous mourrons hagards. L'humour fut inventé pour effrayer l'instant de la mort. Il fait froid dans la chambre froide. Des viandes pendent, elles sont bleutées. J'aimais beaucoup le givre, du temps qu'il se posait sur l'herbe et se fixait sur mes vitres. Le printemps, nous n'en voulons pas. Bonsoir à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour 2 heures de Libre Antenne. C'est un plaisir de chaque week-end. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à nous écouter et nous en réjouissons. L'émission d'hier notamment a suscité un nombre de réactions auxquelles nous ne nous attendions pas, des réactions positives, s'entend. Vous avez été extrêmement nombreux à nous en féliciter. Il y aura comme ça d'autres surprises, vous vous en doutez bien. Je vous rappelle que vous pouvez contacter Mathilde et Nicolas au 39 21 50 centimes par minute et ça ne vous coûtera pas un fifrelin puisque nous vous rappelons. Vous pouvez réagir au témoignage en envoyant un SMS au 7 39 21 en commençant par le mot nuit en majuscule. Et vous pouvez également, quand vous le souhaitez, nous contacter par mail à libreantenne@europe1.fr si vous avez du temps à perdre. Bonsoir Mathilde.
Bonsoir Yann et bonsoir à toutes et à tous. Alors avant de commencer avec les messages des auditeurs et des auditrices, j'aimerais présenter Maëlys. Bonsoir Maëlys.
Bonsoir.
Alors vous avez 20 ans et j'ai cru comprendre que vous étiez intéressée par des études de journalisme, c'est ça?
Oui c'est ça. Alors en ce moment je suis en L3 à LLCER anglais à la Sorbonne. Mais je voudrais faire du coup des études de journalisme plus tard et j'ai envie de faire ça depuis que je suis en seconde et que j'ai pu faire un stage dans un magazine, dans une rédaction déjà, la rédaction Panorama.
Et bien ce soir, vous allez pouvoir assister à la Libre Antenne parmi nous en régie. Donc on vous souhaite une belle émission.
Encore
et
merci.
C'est Maëlys qui ce soir lira le poème.
Exactement.
Sur une musique de Francis Lai. Je ne sais pas si vous voyez l'hommage qu'on vous rend, l'honneur qu'on vous fait.
Merci.
Il y a des gens qui rêveraient du poème sur fond de musique de Francis Lai. Donc,
merci
allez
beaucoup.
Bien vous le mettre dans la tête, essayez même peut-être de l'apprendre par cœur d'ici là.
Ah, on va peut-être essayer.
On va essayer.
Non, mais si vous voulez, ce n'est pas obligatoire. À tout à l'heure, Maëlys.
À tout à l'heure.
Bienvenue sur Europe 1, en tout cas. Je vous donne la parole, ma chère Mathilde.
Alors Géraldine, qui était intervenue avec Laurent, nous a envoyé un mail. Je vous écoute toujours avec un plaisir non dissimulé et que je n'ai pas forcément l'habitude d'avoir envers une émission de radio. Pour être honnête, c'est même la première fois et son animateur en est la raison. Vous êtes devenu mon rendez-vous de la nuit et du week-end. Quand je vous écoute, Yann, vous me réconciliez avec la nature humaine, celle qui ose, celle qui fait de la sincérité son éloge et non de l'hypocrisie organisée, du politiquement correct. Je suis devenue pratiquement accro à votre émission Libre Antenne, une dépendance contrôlée, rassurez-vous. Soit on vous aime, soit on vous déteste, et c'est tant mieux. Et Fred, de son côté, a publié un message sur notre page Facebook en réaction à l'émission d'hier soir au Père Lachaise. Hallucinante et drôlatique émission la nuit dernière. Yann Moix pose son empreinte créative avec un petit grain de folie bien à lui.
Enfin, on est quatre fous, hein. Benoît,
justement,
Nicolas, vous et moi.
Il a ajouté, bien aidé par une équipe au diapason qui prend du plaisir à s'immerger dans une dimension qui s'échappe avec malice à la routine. Ayant un peu de mal avec tout ce qui est conventionnel, j'apprécie beaucoup ce versant décalé qui demande probablement un travail certain et une osmose au sein de l'équipe de la Libre Antenne.
Moi, le seul problème que je vois à la Libre Antenne, c'est qu'on est obligé d'avoir des témoignages de gens. Parce que sinon, ça serait extraordinaire.
Il a ajouté, je veux donc aussi saluer cordialement et chaleureusement Nicolas, Benoît et Mathilde. Bon dimanche à eux ainsi qu'aux auditeurs et aux auditrices. Et Jacqueline, elle nous a partagé son histoire qu'elle a vécue au Père Lachaise avec son mari. Quand nous sommes arrivés à Paris en 1969, nous étions dans ce cimetière. Comme la nuit tombait, nous nous dirigeons vers la sortie. C'était fermé. Surpris par l'heure de fermeture, nous avons eu l'idée de longer le mur de droite et miracle, une petite porte en bois nous attendait. Nous n'avions pas peur, mais soulagés. Une fois dans notre lit douillet, Bernard me fait un bisou, comme d'habitude, avant de se retourner pour dormir, et me dit « On est mieux qu'au cimetière ».
Et oui, la porte en bois. Elle est toujours là d'ailleurs, mais je ne savais pas que Jacqueline la connaissait aussi. C'est vraiment un truc d'initié, la porte en bois. Moi, la première fois qu'on me l'a montré, c'était en juillet 1991, quand je suis allé me recueillir sur la tombe de Jim Morrison et que les flics m'ont embarqué. Ils ont embarqué tout le monde ce jour-là pour un contrôle d'identité. Mais ils m'ont lâché tout de suite. Vive les Doors. Merci beaucoup, ma chère Mathilde.
Merci, à la semaine prochaine.
Et on vous retrouve vendredi prochain à la même heure. Je suis en ligne avec Maxime.
Bonsoir Yann.
Alors Maxime, on vous a quitté hier, vous étiez enfermé dans le Père Lachaise, on s'est raté. Qu'est-ce qui s'est passé alors?
Alors bah, déjà, je vous remercie.
On vous entend mal, on vous entend mal Maxime. On vous entend très mal, rapprochez-vous du téléphone.
Ah, alors ne quittez pas. Voilà. Est-ce que là vous m'entendez
mieux?
Ah,
là d'accord.
Bon, bah alors à ce moment-là, on va faire comme ça. Donc, quand on s'est quitté, effectivement, j'étais au froid. Bon. J'envisageais de partir par une porte dérobée. Heureusement, l'indication qu'on m'avait donnée était bonne, mais avant ça, je tiens à vous remercier de prendre de mes nouvelles.
Hein. Nous, on a réussi à sortir. Vous étiez enfermé pendant qu'on était dans notre régie.
C'est vrai, jusqu'à 7, 8 ou 9 heures du matin, ça aurait été très long. Donc ça a été rocambolesque en fait du début à la fin. Déjà en arrivant, quand je me suis caché, j'ai plutôt pensé à l'inspecteur La Bavure, vous savez, dans la scène où Coluche se planque dans une chapelle et Marthe Villalonga lui donne à boire avec l'arrosoir. Bon. Et en fait, pour partir, ça a été à peu près pareil, parce que j'ai essayé d'escalader, j'ai suivi les conseils de mon ami, mais il a 20 ans de moins et super sportif. Bon, c'est là où je regrette mes années de cigarette. Et j'ai effectivement trouvé une sorte de petite porte, enfin une chatière géante, quoi.
Oui, c'est ça.
Par laquelle j'ai pu sortir.
Oui, oui. Elle est très connue par ceux qui y connaissent. Elle est totalement inconnue de ceux qui ne connaissent pas.
Eh bien, désormais, je fais partie des initiés qui la connaissent. J'aurais aimé en faire partie avant, mais enfin, tant pis. Et enfin, en sortant.
Léon Blois en parle déjà. Huysmans en parle, cette porte en bois. C'est aussi un peu secret de Polichinelle. Hein. Mais enfin, bon.
En tout cas, pour moi, elle est
oui,
nouvelle.
Oui, non, mais une petite initiation. Oui, c'est une petite initiation. Moi, je la connais depuis 91.
Oui. Bravo, mais moi, non. Et donc, en sortant, là, j'ai cru faire un bond en arrière, un bond dans le temps, en arrière. Je vois une Renault 16, sérigraphiée Europe 1. Et je me dis, il y a un problème, quand même.
J'ai oublié de le dire aux auditeurs. Allez-y.
Et donc, je regarde cette R16 et je me dis, mais c'est enfin, quand j'étais tout petit, il y en avait, mais ça fait longtemps qu'ils ont abandonné les R16 et qui plus est orange, sérigraphié noir Europe 1. Et donc, je me suis vaguement approché de la R16 parce que j'aime bien les voitures anciennes, mais bon, j'ai pas cherché plus loin, quoi. Et j'avais qu'une envie, c'était de qui a presque le même âge d'ailleurs.
J'ai pas entendu. J'ai qu'une envie, c'était ça a coupé. Je n'ai qu'une envie, c'était de. Ensuite, ça a coupé.
De rentrer au show.
Ah oui.
Donc je suis allé reprendre ma voiture et je suis rentré et ça m'a laissé finalement un très bon souvenir. Quelquefois, les ratages sont plus drôles que les réussites.
Bon alors cette voiture, vous vous doutez bien que voilà parce que je dois dire que la direction d'Europe 1 a eu la diligence d'offrir à notre équipe une voiture vintage à la couleur d'Europe 1, mais couleur des années 60, c'est-à-dire la couleur à l'époque où Europe 1 était orange. Et ça nous permet effectivement d'avoir une petite régie volante quand on fait nos bêtises, entre guillemets, dans les églises comme Saint-Sulpice, ou qu'on fait une émission pleine de respect, je le précise, comme au cimetière hier. Et c'est pas fini, il y aura d'autres surprises.
De l'irrespect,
c'était l'émission la plus respectueuse jamais faite dans un cimetière depuis qu'Europe 1 existe. Donc, non, ce que je voulais vous dire, c'est
tous
que
tous les noms évoqués, d'ailleurs, c'est faire honneur à leur mémoire. Hein.
Je sais, mais vous nous avez un peu grillé, Maxime, vous nous avez un peu grillé parce que je voulais faire une surprise aux éditeurs avec cette voiture vintage orange. Et du coup, vous nous avez un peu cassé l'effet de surprise. Mais c'est pas grave. On va mettre d'ailleurs une photo de cette voiture sur la page Facebook. Je vais demander à Nicolas et Mathilde de s'en occuper.
Yann, vous savez, mon gros défaut, c'est d'être bavard. Voilà.
Oui, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, on aurait été démasqués tôt ou tard. Mais effectivement, je vous dirai pourquoi nous avons décidé de temps en temps de faire l'émission dans ce véhicule vintage, parce qu'évidemment, vous vous doutez bien qu'il y a une raison. C'est pas juste un cadeau et un caprice, mais c'est un petit studio, effectivement, très artisanal, qui ressemble à ceux qui existaient à l'époque où Europe 1 faisait des émissions dans les voitures. Donc ça, c'était la surprise de la rentrée, mais comme vous n'avez pas non plus une préscience exacte de ce qu'on va faire avec ce véhicule, vous n'avez que semi-dévoilé la surprise. En tout cas, je vous remercie de votre témoignage, mon cher Maxime, et je vous dis à très vite.
Mais vous avez excité ma curiosité. Maintenant, j'attends avec impatience de savoir ce que vous allez en faire. Mais je crois que vous ne me direz rien.
Non. En tout cas, je le dirai bientôt. Voilà.
Bon. D'accord. Bah, je vais continuer à être un fidèle auditeur. Et j'attends la surprise.
Merci Maxime et merci. Vous n'avez pas croisé par hasard des auditeurs dans les travées? Parce que nous, on a vu deux étudiants qui allaient sur la tombe de Pierre Bourdieu, un touriste anglais avec sa femme et une italienne, je crois, mais on a croisé zéro auditeur.
Alors, à l'extérieur, c'est vrai qu'il y avait une faune un peu curieuse. Il y avait un couple de gothiques qui, visiblement, n'avait pas bu que de l'eau. Et un peu plus loin, il y avait une voiture de flic. Je pense qu'il devait être en intervention. Sinon, en me voyant sortir, à quatre pattes, je pense qu'il se serait enquéri de ce que je venais de faire. Mais en dehors de ça, je n'ai vu personne qui avait l'air de chercher et qui avait l'air dans son état normal.
D'accord. Bon, on essaiera peut-être d'aller au cimetière Montmartre bientôt pour faire une mission en direct depuis la tombe de Sacha Guitry, voire de Stendhal ou de Truffaut, puisque les trois sont les uns à côté des autres. Pas tout à fait, mais enfin dans le même lieu. Merci beaucoup Maxime. Une page de publicité et je prendrai la deuxième auditrice, enfin non, le deuxième auditeur, pardon, juste après la pub. Nicolas, êtes-vous là? Alors, si Nicolas n'est pas là, nous allons peut-être. Vous êtes là?
Bonsoir, Yann.
Les gens ne sauront donc jamais la catastrophe que j'allais déclencher. C'est presque dommage que vous soyez en ligne. Parce que là, j'allais essayer un truc qui n'avait jamais été essayé à la radio. Et ben, personne ne le saura. Ça s'est joué à 3 secondes. C'est-à-dire que j'aurais pu définitivement être viré d'Europe 1 à 3 secondes près. Mais on ne le saura jamais. Donc, Nicolas, comment allez-vous?
Ben, ça va plus ou moins bien.
Expliquez-moi votre problème.
En fait, je suis reconnu dyspraxique depuis l'année 2019.
Oui.
Donc ça, c'est au niveau des gestes, surtout.
C'est un problème de coordination dans la gestuelle,
oui,
dans le
mouvement. C'est ça, oui.
C'est ça.
Oui. C'est exactement ça, c'est la coordination des gestes. Et qui chez moi sont assez touchés.
Et si chez vous, ça s'est développé dès l'enfance ou ça a été plus tardif, les premières manifestations?
Ça s'est développé dès l'école maternelle. Mais
c'est
en
ça.
Fait, les professeurs ne connaissaient pas le problème. Et du coup, j'ai passé mes classes comme ça.
Vous avez fait toute votre scolarité sans avoir été détecté comme dyspraxique?
Oui, j'ai fait toute ma scolarité sans être diagnostiqué, en fait.
Et quel âge avez-vous, sans indiscrétion, Nicolas?
Aujourd'hui, j'ai 37 ans.
37 ans. Ah oui, pourtant, vous n'êtes pas vieux. Hein.
Non.
Donc, les médecins, personne s'est dit cet enfant a un problème?
Mes parents, ils se sont rendus compte, mais ils se sont heurtés au corps enseignant, quoi, en fait. Hein, donc,
d'accord.
Moi, les profs, les instituteurs, les professeurs disaient que j'étais capable. Donc après l'école primaire, je suis rentré au collège. Et j'avais beaucoup de mal au niveau dans le sport, j'ai beaucoup de mal au niveau des mathématiques.
Ah, ça, c'est intéressant ce que vous dites, c'est-à-dire que ça trouble également la dyspraxie et l'apprentissage des mathématiques.
Ah oui. De toute façon, l'année dernière, au mois de novembre, j'ai vu une neuropsychologue, elle m'a dit vous avez aussi une dyscalculie.
Ah, une dyscalculie, d'accord.
Oui. Elle
d'accord.
Dit ça, c'est certain, la dyscalculie, elle est là.
Alors, ça veut dire que, j'ai une question immédiate qui me vient à l'esprit, Est-ce que ça vous empêche de faire du calcul ou est-ce que ça vous empêche de faire des mathématiques, puisque ce n'est pas exactement la même chose? Est-ce que c'est les opérations logiques qui vous posent un problème ou les additions, pardon?
Bah oui, c'est tout ce qui est les additions, les divisions, des le problèmes.
D'accord.
Et surtout au niveau de la géométrie.
La représentation dans l'espace, tout ça.
Oui, les représentations dans l'espace, oui. J'ai beaucoup de mal à me repérer dans des endroits où il faut plusieurs temps.
Et est-ce que la dyspraxie et la dyscalculie vont souvent de pair ou est-ce que ça peut être l'un sans l'autre en général?
Ça peut être l'un sans l'autre. Hein,
vous avez les deux, vous, en fait?
Moi, j'ai les deux, oui.
D'accord.
Oui.
Et donc, à part en mathématiques, dans les autres matières, vous n'avez jamais connu de difficultés particulières?
J'étais bon en français, quoi, justement. Donc, l'année dernière, j'ai vu beaucoup de neuropsychologues. Et la neuropsychologue, elle m'a dit que j'avais une bonne culture générale. Elle m'a dit, je ne comprends même pas que vous n'avez pas le bac, quoi, en fait. Parce que ça aurait dû être détecté à l'école.
Oui, parce que vous auriez pu faire un bac littéraire avec très peu d'enseignement scientifique.
Oui. C'est ce qu'on me dit, oui.
Et vous avez été mis en échec scolaire, selon vous, à cause de ce dysfonctionnement?
Oui.
C'est évident pour vous?
Oui, c'est évident. Oui. Ça a été très, très difficile. Même à l'école primaire, pour apprendre à lire et à écrire, il a fallu
se battre.
Il a fallu que je me batte, oui, ça c'est sûr.
Je voudrais comprendre comment se manifeste cette dyspraxie. Est-ce que vous pouvez me donner des exemples concrets de mouvements, de choses qui sont pour vous extrêmement difficiles à effectuer?
C'est comme j'ai signé un stage en nettoyage. Donc c'était le nettoyage des locaux. Mais donc il faut godiller. Le patron il a remarqué que j'ai pas le bon geste au niveau du balai. Et je suis trop raide au niveau du. Mes gestes sont trop raides. Donc ça il l'a vu, c'était le nettoyage d'une concessionnaire automobile. Il m'a dit le geste n'est pas là. Donc,
Est-ce que lorsqu'on est dyspraxique, on peut imiter un geste? Par exemple, si vous voyez quelqu'un nettoyer un sol, par exemple, avec un balai, par exemple, est-ce que vous pouvez l'imiter ou même cette imitation vous est impossible? L'information ne se transmet pas?
Je peux l'imiter, mais difficilement. En fait, ce sera pas le.
Et c'est valable des gestes les plus simples de la vie? Par exemple, si vous voulez vous faire à manger vous-même, cuisiner, c'est possible ou c'est impensable?
Ça reste possible, mais des choses simples, quoi, repas simples. Quoi.
Et pour faire vos lacets, par exemple, ça pose des problèmes?
Lacets, dans l'enfance, j'ai eu beaucoup de mal à faire mes lacets. C'est sûr, quand j'étais à l'école maternelle et primaire, j'avais eu énormément de mal à faire mes lacets. Du coup, je mettais des chaussures à scratch.
Bien sûr.
Il fallait trouver une alternative. Et là, à ce jour, j'arrive à faire mes lacets, mais ils ne sont pas serrés. Des fois, ils s'enlèvent, quoi, en fait.
Est-ce que vous avez plus de difficultés à faire des tout petits gestes ou à des grands gestes, par exemple? Est-ce que c'est plus difficile de balayer pour vous ou de tapoter sur votre iPhone?
C'est plus difficile de balayer que
c'est ça,
de taper
c'est
sur l'iPhone. Même sur le téléphone portable, des fois, avec le tactile, j'ai du mal quand même. Hein.
Mais il n'y a pas de tremblement?
Non.
Oui, c'est une information qui est mal communiquée, c'est-à-dire que le cerveau n'arrive pas à communiquer au corps l'action que le corps est censé faire, c'est ça?
Oui.
Et le motif de votre appel, c'est qu'il y a eu un problème au travail, c'est ça? Un licenciement?
Ils ont essayé de me faire un stage en entreprise adaptée, donc c'est une entreprise qui doit prendre des personnes avec une RQTH, donc qui sont reconnues travailleurs handicapés. Mais au bout du deuxième jour, l'employeur, le patron, il m'a dit « je vois galérer, là, il dit depuis 2 jours ». Donc il a dit « il faut revoir avec votre formatrice parce que ça va être difficile de pouvoir exercer ce métier ». En fait.
Qui s'occupe, alors RQTH, hein, pour les auditeurs, ça veut dire reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Et c'est, voilà, qui, c'est qui est habilité à établir cette reconnaissance de qualité de travailleur handicapé? C'est l'administration?
Ça, c'est la MDPH, le nouveau département des personnes handicapées.
Et moi, la question qui me vient immédiatement à l'esprit, et je pense que les auditeurs sont dans la même situation que moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas, mon cher Nicolas.
Oui.
Vous souffrez d'une dyspraxie. Oui. Maintenant, on le sait, vous avez été diagnostiqué. C'est-à-dire qu'on
en 2019 à Berck.
Voilà. Donc, on a détecté que la chose que vous faites le moins facilement, ce sont des gestes. Et c'est précisément l'emploi qu'on vous offre. C'est-à-dire que vous avez un niveau intellectuel plus que satisfaisant, vous avez une très bonne culture générale, vous n'avez pas de problème d'élocution ni de langage, pas de problème cognitif avec la langue française, et on vous donne comme travail exactement ce que vous ne pouvez pas faire, exactement comme si on vous employait à l'INSEE pour faire des calculs alors que vous êtes dyscalculique. On est quand même, on marche sur la tête.
Non, ça marche sur la tête, effectivement.
C'est-à-dire que les gens qui vous ont orienté ont pensé qu'il serait bien et agréable pour vous de vous faire faire un des métiers qui vous est impossible mécaniquement d'exercer.
Oui.
Mais qui sont ces gens qui...
C'est le centre de rééducation professionnelle à Lille, en fait.
Mais vous ne leur avez pas dit, Nicolas, attendez, c'est précisément des gestes que je ne peux pas faire. Quelqu'un qui a peur du sang, on ne va pas lui demander de faire des prises de sang.
Mais ils ne veulent rien savoir. Donc, de toute façon, ils m'ont dit... ils ont dit que ce n'est pas un placement à l'emploi. Il a dit on est là pour faire des préconisations auprès de la MDPH. Et c'est tout.
Mais qui c'est... Comment vous dites AMDPH?
AMDPH, la maison départementale des personnes handicapées.
AMDPH, d'accord. De quelle région?
Le Pas-de-Calais, 62, Arras.
D'accord. Alors, nous voulons dire, de la part d'Europe 1, que l'AMDPH du Pas-de-Calais à Arras est dans la situation de Nicolas en train de faire n'importe quoi. Si des gens nous entendent et sont concernés par cette aberration, qui n'est d'ailleurs pas sans cynisme, qu'ils nous appellent, on va leur faire une gentille explication de gravure, parce que la situation de Nicolas est aberrante. Aberrante.
Et là, dernièrement, on a fait le tour des ESAT, en fait.
Le tour des ?
Des ESAT, les CAT, Centres d'aide par le travail. Et c'est ça, ça concerne le handicap mental.
Mais oui, mais ce n'est pas du tout votre cas.
Ce n'est pas du tout mon cas, oui.
En fait, depuis que vous êtes sur Terre, votre vie, c'est des mauvaises orientations à répétition.
Oui. Je suis baladé d'un endroit à un autre, de stage en stage.
Moi, ce qui m'attriste et qui me fait beaucoup de peine dans votre cas, mon cher Nicolas, c'est que Mathilde m'a dit que, en fait, vous cherchez auprès des auditeurs quelqu'un susceptible de vous embaucher. Ça m'arrache un peu, pas des larmes, mais enfin, ça me fait du mal parce que c'est le monde à l'envers. On croule en France sous les organismes. Nous payons également des impôts pour ces organismes, pour que les gens en handicap soient orientés en fonction de leur handicap. Et on envoie les gens au casse-pipe de manière totalement aléatoire et arbitraire, en tout cas si j'en crois votre témoignage, en leur faisant faire pile la seule chose qu'ils sont incapables d'exercer. Franchement, c'est comme si on demandait à un muet de venir faire de la radio. Enfin,
et de toute façon, là, au niveau de Pôle emploi et de Cap emploi, la dyspraxie me disait de cacher, de ne pas le dire aux employeurs.
Ils vous ont dit ça?
Oui.
À la MDPH du Pas-de-Calais à Arras?
Puis le Pôle emploi et le Cap
emploi. Pôle emploi aussi
m'ont dit de le cacher.
Eh bien, on va. Le Pôle emploi d'où d'Arras?
Le Pôle emploi de Carvin, dans le Pas-de-Calais.
Carvin?
Carvin, oui. C-A-R-V-I-N.
C'est avec un K?
Avec un C.
Un C?
Oui.
D'accord. Le Pôle emploi de Carvin, on prononce Carvin?
Carvin, oui, dans le Pas-de-Calais. Oui.
Le Pôle emploi de Carvin dans le Pas-de-Calais est un pôle emploi d'incapables, d'irresponsables. Je le dis à l'antenne d'Europe 1, parce que je trouve inouï de cynisme que quelqu'un qui souffre d'un handicap soit sommé de cacher sa différence pour exécuter un travail dont on sait précisément qu'il ne pourra pas le faire et dont on sait qu'il sera détecté immédiatement et considéré comme incapable. Donc c'est juste pour faire gagner 2 heures à Pôle emploi, faire perdre 2 heures à l'employé et lui faire perdre aussi quelques espérances et cocher une croix pour dire c'est bon, on lui a trouvé quelque chose. Ce sont des salopards. Les gens du Pôle emploi de Kervin sont des salopards.
Oui, et voilà. Tu n'as pas pouvoir en lancer aussi, parce que de toute façon, j'ai failli ne pas être reconnu, parce que j'avais été à Pôle emploi à Lens, et ils avaient mis fin à l'accompagnement en disant qu'ils ne pouvaient rien faire. C'est moi-même qui les ai recontactés par la suite, et c'est seulement là qu'ils m'ont dit qu'ils avaient obtenu des tests pour la dyspraxie, parce qu'ils n'en avaient pas. Et autrement, s'ils n'avaient pas contacté, ils ne m'auraient pas contacté pour me le proposer, sachant qu'ils savaient que j'avais ce problème-là.
Mais vraiment, moi, ce que vous me dites, je suis pantois. J'ai du mal, crois évidemment, et je suis très en colère, parce que je demandais à un handicapé de camoufler ses défaillances, me semble un sommet de cynisme.
Du coup, je me suis retrouvé à faire des stages en EHPAD. Mais pour faire le transfert du lit au fauteuil,
c'est impossible pour vous, Nicolas.
C'est impossible, oui.
Mais c'est comme demander à un daltonien de trouver les bonnes couleurs sur un tableau de Delacroix. C'est absurde, dont la tombe est au Père Lachaise. C'est absurde.
Oui. Et même moi, je suis comme vous, je suis dépassé. Franchement, je suis complètement dépassé.
Il y a un hater qui me dit là, c'est honteux ce que vous faites. Faites, il y a un S à la fin. Pardon, c'était une parenthèse. Oui, mon cher Nicolas, je suis vraiment bouche bée en fait. Je suis quoi?
Oui. Et je peux vous assurer que faut garder le moral. Hein. Le moral, il n'a pas un coup. Hein, parce qu'à chaque fois, on se prend des. Et on va au casse-pipe, on. Et après, on n'est pas bien. Hein, non. C'est quelque chose qui après crée de la dépression, non, forcément.
Mais vous êtes dans une situation qui n'est pas tenable. Je ne sais pas quoi faire pour vous aider là techniquement, parce que le problème de cette libre antenne, et heureusement, parce que ça me démangerait d'appeler des organismes, vous imaginez bien, vous me connaître. Donc heureusement qu'on fait l'émission tard la nuit. Parce qu'on exploserait le budget téléphone. Vous savez pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on essaye d'avoir une administration, on entend des musiquettes de Mozart. Oui, c'est des heures et des heures et des heures, faites par ordinateur en plus. Donc c'est infernal. Je ne sais pas quoi vous dire. Si des auditeurs nous entendent, bien sûr qu'ils peuvent proposer du travail à notre ami Nicolas, mais surtout... Si un auditeur nous entend, un avocat par exemple, ou quelqu'un qui pourrait l'aider à faire des démarches, c'est un scandale qu'il faut faire auprès de l'AMDPH du Pas-de-Calais et d'Arras et du Pôle emploi de Kervin.
Et de toute façon, une avocate, j'en ai pris une d'avocate, donc j'ai fait une réclamation auprès de.
Mais la situation dans laquelle vous êtes là, techniquement, moi je pense qu'on peut porter plainte contre Pôle emploi de Kervin, dans votre cas. Pour dire, une personne m'a conseillé de camoufler ma défaillance physique.
Bah oui.
C'est inadmissible.
Et là, j'ai même vu mon médecin traitant et je lui ai expliqué qu'il était en train de me faire le tour des ESAT. Elle m'a dit, vous n'êtes pas quelqu'un pour aller en ESAT.
En plus, ce qui est ignoble, c'est qu'on voit bien que vous êtes quelqu'un qui a envie de travailler. Vous n'êtes pas en train... de vivre tranquillement aux frais de la princesse avec votre handicap en disant « de toute façon, ça tombera ». Vous êtes vraiment décidé à travailler, donc ça m'arrache quand même un peu le cœur, votre histoire. Ça me met vraiment en colère. Moi, je n'ai pas envie de vous laisser tomber, Nicolas. J'aimerais que vous nous rappeliez la semaine prochaine et que vous fassiez des démarches, que vous trouviez quelqu'un. Oui. Je supplie nos auditeurs de m'aider et d'aider Nicolas sur cette histoire, parce que je trouve ça me révolte. Donc je demande vraiment aux auditeurs, à titre personnel et au titre de toute l'équipe et d'Europe 1, de bien vouloir réagir à ce témoignage qui mystérise en fait.
Oui, de toute façon ça m'a gâché beaucoup de choses, hein. Forcément, ça gâche beaucoup de choses. Hein.
Mais c'est que je vous trouve d'un calme olympien avec la situation dans laquelle vous êtes. Mon cher Nicolas, je vous laisse pour l'instant. Vous nous appelez soit vendredi, soit samedi, soit dimanche la semaine prochaine.
Hein. On est là. Pas de souci.
Nous, si Mathilde et Nicolas ont des auditeurs qui m'ont entendu, ils vont évidemment entrer en contact avec vous. Si pendant l'émission, jusqu'à 1h du matin, on nous écoute et que quelqu'un peut réagir ou intervenir, alors ça serait absolument extraordinaire. Je vous le demande comme un service personnel, vraiment. Merci Nicolas, musique,
merci
et je vous embrasse très fort, courage.